RMC les grandes gueules.
On s'en fout.
Je peux pas te dire à quel point je m'en fous.
Pardonnez-moi, mais je m'en fous.
Ou on s'en fout pas.
Avec Anaïs Sainz.
Et pourquoi tu cries?
Je sais pas.
Alors que Barbara ne crie pas aujourd'hui.
Ah non, aujourd'hui, elle ne peut pas crier.
Je me suis fait peur moi-même.
Salut les GG, bonjour à tous. Le nombre de détenus en France a atteint un record absolu avec 72 809 personnes derrière les barreaux. On s'en fout, on s'en fout pas, Charles.
On s'en fout pas.
Etienne,
on s'en fout pas.
Barbara, Charles.
Je ne suis pas étonné par ce chiffre. Moi qui pratique toutes les semaines nos tribunaux répressifs, je constate la passion de certains magistrats pour l'incarcération. J'en suis parfois constaté que certains juges en sont à trouver des prétextes pour incarcérer les gens ou pour les maintenir en détention. Parmi ces détenus, il y en a un peu moins de 20 000 qui sont détenus à titre provisoire dans le cadre d'enquête et qui sont donc présumés innocents et qui potentiellement seront finalement innocentés. Je pense qu'il faut changer de braquet.
Et
je constate à titre, personnel que parmi mes clients détenus, un très grand nombre, voire une majorité, le sont à mon sens de manière très excessive et complètement.
20% sont des prévenus, d'ailleurs, en attente de jugement.
Non.
C'est ce que j'ai dit.
27,
c'est
pardon.
C'est le mandat de dépôt,
Et donc, le mandat de dépôt, toute personne qui est en détention, c'est le mandat de dépôt. Moi, je constate que.
Ouais, mais peut-être qu'on n'a pas construit assez de places de prison.
Non, moi,
je constate
qu'il y a beaucoup d'abus des magistrats sur la détention. Pas de tous les magistrats, mais de beaucoup. Il y a plein de détentions inutiles.
Étienne.
Oui, je suis assez d'accord. Il y a plein de détentions inutiles. Il faut savoir que, effectivement, la prison, qui à l'origine était à la fois pour punir, mais aussi qui devrait avoir un rôle de réinsertion, est totalement, c'est impossible, vu cette surpopulation carcérale, d'avoir un rôle de
réinsertion. Donc, t'es d'accord qu'il faut construire plus de places.
Au contraire. Oui, mais c'est une course sans fin, parce que, visiblement, il y a des gens qui s'amusent à mettre des personnes en prison qui devraient pas l'être.
Les GG, le mea culpa de Bruno Le Maire, qui a reconnu hier sur France 3 des abus sur le recours au cabinet de conseil. On écoute le ministre de l'économie.
Je pense que nous sommes allés trop loin. Dans le fond, on avait pris sans doute trop l'habitude de dire voilà, l'administration n'est pas capable de faire ce travail, on va externaliser et demander à des cabinets de conseil. Je pense qu'il y a eu effectivement une dérive.
Est-ce qu'on s'en fout ? On s'en fout pas de cette sortie de Bruno Le Maire, Barbara ?
On s'en fout pas.
Étienne ?
Non, on s'en fout pas.
Charles ?
On s'en fout pas.
Barbara ?
On s'en fout pas parce que monsieur Le Maire, il est au courant qu'on est en 2022. On n'est pas encore en 2027. C'est-à-dire, il commence déjà à nous tisser la petite histoire, le petit storytelling. Regardez, moi, Bruno Le Maire, je suis déjà capable de prendre de la distance, d'être un peu critique vis-à-vis de l'action de ce gouvernement. Déjà, je commence à faire entendre ma petite voix, très différente de ce qu'on peut entendre par ailleurs dans le gouvernement. On a vu M. Véran qui venait tout de suite à la rescousse de M. Macron, parce que pour M. Macron, il n'y a pas de problème.
Véran a utilisé McKinsey notamment pour la campagne vaccinale.
Mais il n'a pas arrêté.
Il peut difficilement trouver qu'il avait abusé.
Non, je pense que là, M. Le Maire nous fait une petite campagne politique personnelle. En réalité, s'il était élu président en 2027, il réutiliserait tous ses copains de McKinsey.
Je crois qu'il faut vraiment faire la part des choses. J'y connais pas grand-chose, mais je vois qu'on externalise systématiquement partout, tout. Dans toutes les entreprises aujourd'hui, les services, par exemple, de comptabilité, les services de conseil sont externalisés. Parfois même, ils sont externalisés aux États-Unis ou en Chine. Donc, en fait, cette forme d'externalisation qu'a utilisée le président, qui fait partie de la génération précisément start-upper, est pas du tout étonnante. C'est probablement précisément le problème de l'externalisation générale.
D'accord, mais revoir. D'accord, mais je comprends. Mais dans un pays où l'État est présent partout,
mais
c'est incompréhensible.
Mais c'est ça.
Dans un pays libéral, effectivement, où il y a très peu de fonctionnaires, t'as besoin effectivement d'une expertise. Tu prends un cabinet privé, c'est compréhensible. Mais dans un pays comme le nôtre, où on croule sous l'administration, alors soit on a une administration qui n'est pas compétente, et c'est inquiétant, elle n'est pas bien formée. Soit effectivement.
Est-ce que ça a été économique ? Est-ce que ça a été économique d'aller chez McKinsey plutôt que de le faire en interne ? On ne sait pas.
Tu vois les contrats de l'éducation nationale.
Les GG, nos députés sont exténués, amendements par centaines, horaires de nuit. La présidente de l'Assemblée nationale reçoit aujourd'hui les chefs de groupe pour évoquer une éventuelle réduction du temps de travail des députés. Est-ce qu'on s'en fout ? On s'en fout pas. Charles ?
On s'en fout.
Étienne ?
Non, on s'en fout pas.
Barbara ?
Non, on s'en fout pas.
Étienne ?
Bah. Moi, je pense que quand je pense qu'on en fait trop, et je pense qu'il y a une espèce de cinéma de voir ces gens à ferrer, etc. Et je pense que quand d'un seul coup il y a 600 amendements, quand on voit bien que c'est impossible de travailler sereinement dans ce, c'est le système qui est à revoir, qu'on puisse travailler sereinement et réellement discuter des sujets pour faire avancer le pays, plutôt que de se vendre son petit truc personnel, comme ça s'est passé sur la corrida, où d'un seul coup, il y a eu un nombre d'amendements qui était complètement ingérable. Donc c'est même devenu absurde. C'est pas, moi je m'en fous qu'ils bossent, au contraire, même s'ils font 3000 heures, je m'en tape. Mais au moins que ce soit bénéfique au pays, là ça ne l'est pas.
Barbara ?
Oui, c'est vrai que c'est un temps de travail qui n'est pas forcément efficace. Les députés ont toujours beaucoup travaillé, mais là, on sent qu'ils travaillent pour pas grand-chose.
Pour que le 49-3 soit plus décidé, en plus.
Pour sortir du 49-3, et surtout pour pas être assez présent et assez disponible en circo. Le plus important aussi, c'est d'avoir des députés en circonscription. Aujourd'hui, surtout les députés de province, ils passent leur temps à Paris, à dormir dans leur piole, là, dans leur bureau, avec leur lit tout pourri, là, qui s'ouvre.
Leur lit armoire.
Non, mais c'est
le premier petit nous l'avait montré, ce lit.
Oui, oui.
Non, mais c'est
d'ailleurs, elle restait coincée dans le lit.
On a tendance un peu à se moquer, etc.
Et c'est le lit qui restait coincé. Elle serait peut-être toujours coincée parce que son bureau n'a
Claire,
pas été
réaffecté. Claire, on t'embrasse parce qu'elle nous écoute. C'est des vannes. Hein.
Claire, si t'es encore dans ton
lit armoire.
Dans l'armoire, crie parce que là, les gens vont écouter.
Appelle quelqu'un, allez.
Essaye d'appeler quelqu'un.
Tu peux peut-être que
le député qui t'a remplacé dans le bureau.
C'est Louis Boyard maintenant qui est dans son bureau.
Ah, c'est Boyard.
C'est Boyard. Bah,
demande
qui est dans
à Louis
bureau.
De venir te décoincer.
Je rigole.
Non, c'est un député.
Et je rigole. Ouais, dans l'heure, sûr, c'est le RN, ouais. C'était une vanne.
Etienne, depuis qu'il est plus sur Twitter, il est plus deuxième degré. Je n'ai plus d'humour du tout.
Allez, dans un instant, merci Anaïs. À tout à l'heure pour le quiz des GG.